Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le deuxième scrutin aura donc confirmé et même amplifié le résultat du premier. Trois mois après l'invalidation de la première élection municipale d'Istanbul, la deuxième a permis aux candidats kémalistes et laïcs du CHP de l'emporter nettement avec plus de 54% des voix face à celui de l'AKP, le parti islamo-conservateur au pouvoir. Pendant que les partisans d'Ekrem İmamoğlu célébraient sa victoire, son adversaire, l'ancien premier ministre Binali Yildirim, reconnaissez-lui sa défaite, le président Recep Tayyip Erdogan félicitait le nouveau maire d'Istanbul, fonction importante puisqu'il l'a lui-même occupé au début de son ascension politique. Où va la démocratie en Turquie? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Dorothée Schmidt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient à l'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Et Selçuk Demir, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes avocat, secrétaire général de l'Alliance des juristes franco-turcs et conseiller juridique du consulat général de Turquie à Paris. Dorothée Schmidt, et je vais vous poser la question à tous les deux, à tour de rôle, comment est-ce que vous analysez le résultat de l'élection d'hier ?
Il y a plein de façons de l'analyser, mais pour répondre à votre question qui était où va la démocratie turque, on a quand même là eu un ressort démocratique qui a joué, et ça c'est très intéressant, puisque l'alternance, c'est un peu le principe de la démocratie. Et tout le monde se demandait si le président de la République avait souhaité rejouer cette élection pour la gagner. Je ne sais pas s'il avait l'impression qu'il pouvait la gagner au départ, mais en tout cas, il l'a perdue.
Oui, Selçuk Demir, comment vous analysez ce résultat, ce résultat brut hein, de cette élection?
Écoutez, les Istanbouliotes ont fait leur choix, une nette majorité se profile, et à ce titre, il faut évidemment respecter le choix des Istanbouliotes. Après, je rappelle quand même que, malgré tout, et c'est important de le dire et de le rappeler à vos auditeurs, il y a à peine un an, le président Erdogan a été élu majoritairement à la présidentielle et a largement remporté les législatives. Ça reste une élection municipale, une élection locale, et il faut, à mon sens, relativiser les choses et les remettre à leur juste... Alors juste niveau, quand je vois par exemple les envolées lyriques dans certains quotidiens de presse occidentale qui parlent du début de la fin pour le président Erdogan ou ce genre de remarques, je crois vraiment que il faut complètement analyser les choses et surtout se rappeler que c'est une élection locale et qu'à ce titre, le président Erdogan a déjà été élu l'an dernier et ce jusqu'en 2023.
Dorothée Schmidt, est-ce qu'il faut nationaliser ou pas le résultat de cette élection? Comment est-ce qu'il faut l'appréhender?
La tentation de nationaliser le résultat, elle vient à la fois de la masse critique d'Istanbul, puisqu'on avait
16 millions d'habitants.
Oui, hein, et voilà. 10 millions de votes, plus de 10 millions de votants, donc c'est quand même un chiffre important. Et puis, si on le met en contexte, l'AKP a aussi perdu Ankara, qui est quand même la capitale politique. Donc, le Tayyip Erdogan a perdu la capitale politique, la capitale économique et culturelle. Il a perdu des grandes villes comme Adana, Antalya. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans ce scrutin local. Mais l'AKP a aussi consolidé ses positions dans d'autres villes moyennes. Donc, on a quand même un résultat majoritaire pour l'AKP en total.
Oui, c'est un résultat équilibré sur l'ensemble des municipales en Turquie, pour vous, Selçuk Demir, malgré ce résultat à Istanbul?
Alors, pour moi et pour celui qui analyse les chiffres stricto sensu, il y a une réalité mathématique, c'est que le parti au pouvoir reste majoritaire. Après, c'est vrai, et Dorothée Schmidt a raison, Ankara et Istanbul ont été perdus, ce sont des villes symboles, des villes extrêmement importantes, surtout Istanbul, mais il n'en reste pas moins que le parti présidentiel reste majoritaire dans le pays.
Alors c'est pas que des symboles
oui,
quand même.
Alors quel message ont voulu envoyer les Istanbouliotes, Dorothée Schmidt?
Je pense que là, ce qui est intéressant, c'est l'écart qui s'est creusé hein, entre les deux candidats.
On évidemment. Est passé de 13 000 voix d'écart, voilà. Et c'est pour ça que l'élection avait été contestée et invalidée au premier scrutin, à plus de 700 000, c'est ça.
Plus de 700 000 voix d'écart, donc ça veut dire que on peut interpréter ça comme une sanction de la décision de rejouer l'élection en réalité. C'est ça qui est plutôt intéressant, c'est que les électeurs ont tenu à faire ce qu'ils avaient envie de faire. Ils se sont pas laissés forcer la main.
Ça veut dire que peut-être des électeurs qui n'avaient pas voté la première fois sont allés voter cette fois-ci. Comment vous le percevez, Selçuk Demir?
Non, ce n'est pas tellement ça. C'est le fait que la décision du Haut Comité électoral, à mon sens, a été mal comprise par un certain nombre d'électeurs. Et en effet, il y a eu un glissement d'une certaine partie de l'électorat de la Kepe vers Ekrem İmamoğlu, donc vers celui qui a gagné les élections municipales à Istanbul. Je pense que quand on refait l'historique, cette décision de refaire les élections est plutôt une mauvaise nouvelle pour le parti présidentiel. Et je me demande,
c'est une mauvaise décision. Il y a une erreur qui a été faite. C'est comme ça que vous l'analysez?
En tout cas, je me demande si ça ne va pas jouer contre le parti au pouvoir, justement. Et je peux également dire que certains commentaires d'un certain nombre de responsables du parti au pouvoir avant cette décision, mais également après, n'ont pas aidé non plus à ce que cette décision soit bien comprise. Et là-dessus, le parti au pouvoir a fait un certain nombre d'erreurs qu'il conviendra pour eux d'analyser afin de ne pas les répéter lors des prochaines échéances électorales.
Vous disiez que ce n'était pas uniquement des symboles, Dorothée Schmidt, qui étaient en jeu.
Oui, la capitale politique et une ville qui représente 30% du PNB du pays, c'est pas des symboles. C'est quand même...
C'est du concret.
Comme je disais, une masse critique, c'est la puissance quand même turque qui se joue aussi bien Ankara qu'à Istanbul. Hein.
Est-ce que, pour rebondir sur ce que vous disiez, Selçuk Demir, est-ce qu'il y a eu peut-être un élément d'autocritique à faire de la part du parti au pouvoir de l'AKP?
Mais il est évident, cet élément d'autocritique, il doit se faire. Et j'espère qu'il se fait, je pense qu'il se fait, parce que quand bien même l'an dernier, les élections présidentielles et législatives ont été remportées avec une majorité certaine, il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de scrutins, notamment ce scrutin municipal, reste quand même très largement discutable quant aux résultats qui sont apparus. Enfin, je veux dire, l'AKP a des éléments sur lesquels il doit se remettre en question, bien évidemment. De même que concernant le référendum constitutionnel qui est passé à quelques centaines de milliers de voix, on a une majorité aujourd'hui en Turquie qui est pro-parti gouvernemental, en tout cas pro-coalition gouvernementale.
Pour ce qui est des instances nationales, en tout cas, voilà.
Mais il n'en reste pas moins qu'il y a également une opposition qui se structure de plus en plus, qui se fédère de plus en plus, qui, malgré ses divergences idéologiques, est plutôt uni, hein, et en effet, cela doit amener le parti au pouvoir à se poser des questions.
Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, Dorothée Schmidt, que l'opposition turque se structure, soit un peu plus unie. C'est démocratiquement, c'est plutôt porteur de bonnes nouvelles.
Si on considère qu'effectivement l'alternance c'est une condition de la démocratie, c'est pas uniquement le fait de faire des élections qui font la démocratie, ce qui est un peu la définition de la démocratie qu'avait Tayyip Erdogan jusqu'à présent puisqu'il gagnait les élections. Moi, je considère que l'alternance c'est vraiment un élément très important. Donc là, évidemment, si l'opposition pour une fois a réussi à faire un système d'alliance qui a fonctionné, c'est très bien. Maintenant, il faudrait que ça dure, ce qui n'est pas évident. Il faudrait aussi que le parti kémaliste qui a gagné aujourd'hui ces élections arrive à... cette élection à Istanbul arrive à se réformer. Donc ça, c'est pas non plus donné d'avance.
À quel type de rapport entre le maire et l'exécutif on peut s'attendre, Selçuk Demir? Apparemment, à Ankara, c'est un petit peu compliqué pour l'instant depuis le premier scrutin.
Écoutez, c'est pas la première fois que la couleur politique du maire d'Istanbul n'est pas la même que celle de l'exécutif à Ankara, même si, en effet, ces 20 dernières années, la Kepe était non seulement majoritaire au Parlement et sur le plan présidentiel et dans les grandes villes comme Istanbul ou Ankara, il n'en reste pas moins qu'il y a une culture démocratique en Turquie qui fait que depuis maintenant quasiment 100 ans, des élections se font et qu'il arrive que des municipalités soient dirigées par d'autres partis politiques que les partis politiques qui sont au pouvoir à Ankara. Donc là-dessus, j'ai pas d'inquiétude. Alors après, oui, cette défaite à Istanbul devra amener la partie peut-être à se poser un certain nombre de questions. Mais j'insiste quand même sur le fait que même s'il y a une union de l'opposition, cette opposition reste quand même très hétéroclite en termes d'idéologie, d'intention, mais aussi en termes d'assises sociologiques des électeurs potentiels de cette opposition.
Ça veut dire qu'il en vient un peu de partout, c'est ce que vous...
Alors, on a un parti de gauche qui est le parti d'Ekrem İmamoğlu, on a une scission du parti de droite, du parti nationaliste, qui est le İyi Parti, on a un parti religieux, le Saadet, on a quand même un patchwork d'opposition qui ont pour seul objectif de briser l'hégémonie politique du président Erdogan, et cela ne repose que sur ça. Donc c'est très très fragile, et à ce titre, pour les élections nationales, je ne pense pas que ça représente, en tout cas en l'état actuel des choses, une véritable une véritable menace pour le président Erdogan.
Alors sur le plan intérieur, quels rapprochements, quelles alliances possibles pour les uns et pour les autres d'ailleurs, Dorothée Schmidt, il va y avoir, comme le disait Selçuk Demir, il faut se poser un peu des questions quand il y a des résultats comme ça. Est-ce que ça va permettre des rapprochements ou au contraire ça va radicaliser, je dis ça entre guillemets, la vie politique turque?
Alors d'abord, ce que je trouve très intéressant, si on se place à quelques années, c'est que finalement en 2016, on a eu une tentative de coup d'État militaire qui a échoué. Aujourd'hui, on a une alternance démocratique, donc on peut considérer qu'on est quand même sur un chemin de normalisation démocratique définitive de la Turquie. Je ne sais pas si ça va se poursuivre hein, au-delà de cette élection à Istanbul, mais c'est quand même des bonnes nouvelles parce que les institutions ont résisté, ont bien fonctionné, et que les électeurs se sont appuyés sur ce socle institutionnel pour préserver leur liberté de choix. Donc ça, c'est quand même très important. Et là, on est en train de parler du lendemain d'une élection, exactement comme on le ferait en France, c'est-à-dire tel parti a perdu, il va falloir qu'il se remette en cause, qu'est-ce qui va se passer dans le leadership du parti, les cadres, qu'est-ce qu'ils vont faire. Là, la première chose que tout le monde attend, c'est de savoir si les tensions internes à l'AKP, auxquelles faisait allusion Selçuk Demir il y a quelques instants, avec ses déclarations de hauts cadres du parti, une fois qu'il avait été décidé de rejouer le scrutin, qui s'était inscrit en faux contre cette décision du Haut Conseil électoral, qui disait qu'il pensait que c'était pas correct, est-ce que ça va donner lieu à vraiment de telles tensions qu'on peut envisager une scission au sein de l'AKP, ou qu'en tout cas Tayyip Erdogan va devoir vraiment négocier avec sa communauté un nouveau type de programme et un type de fonctionnement qui soit peut-être plus collégial au sein de l'AKP, parce que finalement c'est l'extrême personnalisation du pouvoir aussi aujourd'hui qui a été sanctionnée.
Selçuk Demir, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Comment vous le voyez?
Il y a aussi un élément de fait qui est extrêmement important et qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y aura pas d'élection avant 2023. Donc on a une période de 4 ans.
L'élection présidentielle et législative, c'est en 2023. C'est ce qui
est prévu. Voilà. Et il n'y aura pas d'autres élections nationales ou locales avant 2023. Donc ces questions-là, elles peuvent être pour l'instant mises de côté. Et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va participer à ce que la Turquie se stabilise un peu plus politiquement. Parce que voilà, la recrudescence d'échéance électorale, ça n'aide pas évidemment à une certaine stabilité politique. Et la stabilité politique devrait, je pense, aussi amener un peu plus de stabilité économique, ce dont la Turquie a besoin actuellement, au vu notamment d'un certain nombre de turbulences à ce sujet qu'il y a eu ces derniers mois. Donc on peut, à mon sens, se féliciter de ce qu'on rentre en effet dans une phase de normalisation qui sera encouragé par le fait qu'on n'a pas d'échéance électorale majeure avant 4 ans.
Est-ce que justement cette échéance de 4 ans fait que l'AKP et Recep Tayyip Erdogan ne se sont pas créés quelque part un adversaire qui n'existait pas? Est-ce qu'ils ne l'ont pas un peu renforcé avec ce recours? Et est-ce que pour les 4 ans à venir, on va rester sur cette victoire d'Ekrem İmamoğlu?
Écoutez, on est tout à fait fasciné par cette nouvelle personnalité qui émerge, alors qu'il y en a jamais, il y a jamais quelqu'un d'un peu crédible qui sorte du paysage politique turc. Là, on a l'impression qu'on a ce candidat du CHP qui était plus jeune, plus dynamique, qui avait géré un district d'Istanbul de manière un petit peu plus écologique. Et donc, ça donne une espèce de nouvelle dynamique dans ce paysage politique turc.
On va le préciser pour nos auditeurs, il était une sorte de maire d'arrondissement, en fait, comme on dirait à Paris, c'est ça?
Oui, c'est ça, les arrondissements, un arrondissement parisien, oui, c'est un peu ça. Donc on a cette nouvelle dynamique qui se profile, mais comme le soulignait Selçuk Demir, la prochaine élection, elle n'est pas tout de suite. On pourrait imaginer une élection législative anticipée, mais pour ça, évidemment, elle sera convoquée si l'AKP a le sentiment qu'il peut à nouveau reprendre le dessus. Et entre-temps, ce qui va devoir se jouer, c'est la consolidation de cette opposition s'ils veulent transformer l'essai. Donc ça, c'est pas du tout évident, parce qu'ils ont eu tellement de mal à se mettre d'accord depuis des années sur un minimum. Et là, aujourd'hui, le programme est pas très clair. Il y a effectivement des tiraillements dans cette... Et ce qui est très important, c'est le facteur kurde sur lequel il faut revenir
parler,
un instant.
Bien sûr, on va en parler. Oui. Le facteur kurde, justement, est-ce que ça peut être... la communauté kurde peut être l'objet d'une tentative de rapprochement? Franchement, on a entendu Selçuk Demir, Abdullah Öcalan, appeler à la neutralité pour cette élection depuis sa prison. Est-ce que il peut y avoir des rapprochements ou des assouplissements possibles?
En tout cas, les derniers événements et ce que vous évoquez montrent à quel point également le vote kurde de façon générale est plutôt hétéroclite. On n'a pas comme ça un bloc monolithique qui vote pour tel ou tel camp. Les Kurdes de Turquie sont ont une assise sociologique qui est extrêmement diverse. On a des Kurdes religieux, des Kurdes plutôt laïcs. Enfin, je veux dire, c'est pas un bloc qu'on peut comme ça analyser en considérant que tous votent pour un parti ou pour un autre. Et à cet égard, on ne peut pas réellement dire que les déclarations d'Öcalan auraient pu influer d'une manière ou d'une autre sur ce vote kurde, à considérer donc que ce vote kurde en tant que bloc monolithique existe.
Mais le simple fait qu'une déclaration d'Abdullah Öcalan soit parvenue comme ça depuis sa prison, est-ce que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu, Dorothée Schmidt? Est-ce que ça dit quelque chose?
Non, je crois que Öcalan s'exprime finalement. Il envoie des signaux politiques assez régulièrement. Ce qui se passe d'habitude, c'est que malgré tout, il est plutôt obéi. Donc là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'auparavant, on considérait qu'on avait un peu deux camps kurdes, un camp des Kurdes plutôt religieux conservateurs pour AKP, qui était pour une forme de stabilité, d'intégration, et puis un camp qui était en train de se renforcer, qui était le camp qui avait soutenu le HDP, ce parti de gauche pro-kurde dont une quinzaine de députés sont en prison aujourd'hui et dont les militants sont pourchassés par l'AKP. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que dans ce camp-là, qui n'est pas le camp qui vote pour l'AKP, on a encore deux camps différents. On a ceux qui sont peut-être plus proches du PKK et qui obéissent à Öcalan, et puis on a ceux qui s'émancipent de la tutelle d'Öcalan. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour la démocratie aussi du côté des Kurdes.
Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences sur les procédures judiciaires en cours, puisque vous parliez des 15 députés kurdes qui sont en prison? Il y a eu une condamnation de masse la semaine dernière, 151 peines de prison à vie suite au coup d'État, à la tentative de coup d'État de 2016. Il y a un procès des événements de Gezi qui a commencé aujourd'hui. Est-ce que ce résultat peut faire changer un petit peu le regard sur ces procédures, Selçuk Demir?
Moi, je ne pense pas que ça interfère d'une manière ou d'une autre sur les résultats de ces procédures. La procédure pénale en Turquie, elle est, comme en France, complètement détachée de la sphère politique. On a des chefs d'accusation contre ces personnes-là qui sont étayés par un certain nombre de pièces de procédure. Moi, je n'ai pas accès à ces dossiers, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est réellement. D'ailleurs, qui sur ce plateau a accès à ces dossiers? Personne. Donc on n'est pas amène, quand il s'agit de dossiers de procédure pénale, de véritablement donner un avis. Mais je ne pense pas que les événements politiques de ces derniers mois puissent avoir une quelconque interférence sur ces procédures judiciaires.
Si vous le permettez, je vais quand même poser la question à Dorothée Schmidt.
Il faut espérer évidemment que la justice est indépendante. Maintenant, la justice, elle est un peu débordée depuis 2016 parce qu'elle a subi aussi les résultats des purges massives contre le personnel considéré comme étant pro-guléniste. Maintenant, moi, je ferai une différence entre les condamnations des auteurs du putsch et les condamnations de Gezi, potentielles en tout cas, et la procédure en cours contre les militants qui sont censés être associés au mouvement de Gezi, où là, il me semble que l'accusation est quand même un petit peu plus floue.
D'une manière générale, est-ce que vous diriez, Selçuk Demir, qu'il va y avoir plutôt un raidissement ou un assouplissement de l'AKP après ces résultats aux élections municipales? Comment ça va évoluer, à votre avis?
Vous savez, quand on gère un pays comme la Turquie, qui a 900 kilomètres de frontière avec la Syrie, dont on sait la situation aujourd'hui, quand on est confronté à une tentative de coup d'État il y a maintenant 3 ans, à la reconnaissance de groupes terroristes comme le PKK qui sévissent depuis 40 ans avec plus de 40 000 morts, on gère un pays aussi en fonction de cette urgence sécuritaire, et on essaye, peu ou prou, de lutter contre la stabilité, pour la stabilité de l'État et contre ces groupes qui malheureusement mettent à mal cette sécurité du pays. Donc ce raidissement supposé ou cet assouplissement supposé, ça dépend aussi des conditions dans lesquelles ces groupes-là sont battus et notamment l'efficacité de ces politiques sécuritaires à leur égard.
Merci Selçuk Demir d'avoir participé à cette émission. Merci à vous également Dorothée Schmidt. C'est déjà terminé. Nous n'avons plus le temps de continuer. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.